Bonjour Bertrand Bonello.
Bonjour.
Votre prochain film Zombie Child sort le 12 juin. Il est en quelque sorte à la frontière de l'ethnologie et du fantastique. Vous retracez le destin d'un haïtien, Clairvus Narcisse, victime d'un sortilège vaudou qu'il a transformé en zombie. Et votre film entremêle les récits et les époques entre Haïti en 1962 et Paris aujourd'hui, plus exactement la région parisienne, entre Narcisse, une jeune haïtienne de 15 ans et sa tante prêtresse vaudou, et puis quelques lycéennes qui sont autour de cette jeune haïtienne. Tout d'abord, une question sur cet intérêt pour les zombies. Il y a beaucoup de zombies en ce moment à Cannes. Comment vous expliquez cela et que sont les zombies pour vous, Bertrand Bonello?
Que sont les zombies? C'est une grande question. Moi, mon intérêt, il était plutôt de revenir en fait aux zombies originels. C'est vrai qu'on connaît les zombies par surtout par le cinéma américain, le zombie occidental qui s'écrit avec un E. On le connaît par les films de Romero.
Est-ce qu'il faut dire que votre zombie est sans E?
Il est sans E, c'est un I. Et j'avais envie de revenir aux zombies originels, donc qui précèdent les années 30 et qui naît en Haïti. Et en me posant la question, en effet, qu'est-ce que c'est qu'un zombie? Et de passer par cette figure quasiment pop maintenant, le ramener à son origine pour en faire, en gros, une évocation de l'esclavage. Alors, le zombie en Haïti, il est pas comme le zombie occidental, c'est-à-dire que c'est pas un mort qui trouve pas sa place en enfer et qui revient. C'est quelqu'un qui... bon, on peut dire que ça existe, même si il y a quelque chose d'un petit peu tabou en Haïti. Mais c'est quelqu'un à qui on donne une sorte de poudre qui le met dans une forme de léthargie. On l'enterre, on le déterre dans la nuit et il est un petit peu entre la vie et la mort et on en fait en gros une sorte d'esclave. Donc voilà, il y a une forme de... On est encore dans l'imaginaire, mais il y a une forme aussi de réalité qui est celle de l'esclavage.
Et cette réalité, vous avez choisi de la confronter à une autre réalité qui est celle de lycéenne française, et donc on a à la fois une peinture d'Haïti, Haïti qui est l'un des pays qui a été le plus durement frappé par les épidémies, je pense à une épidémie de choléra récemment, un tremblement de terre, bref, un pays qui a considérablement souffert, et les souffrances qui sont d'un autre ordre, mais après tout elles ont aussi leur dignité, celle d'une jeune lycéenne qui a un chagrin d'amour.
Oui, alors Haïti, on parle toujours des catastrophes quand on parle d'Haïti, mais c'est vrai que je pense qu'à un endroit, ça a été le pays le plus pauvre que j'ai vu, et à un endroit, quasiment le pays le plus riche, il est riche d'une histoire extraordinaire, avec un grand H, mais d'histoire au pluriel aussi extraordinaire. Quand je dis d'une histoire, c'est vrai que c'est la première République noire libre, et d'histoire au pluriel, parce que à un moment, entre le vaudou, les légendes et l'imaginaire, enfin c'est un pays d'une richesse incroyable. Après, je me suis posé évidemment la question de... à quel endroit je vais pouvoir raconter ça? À quel endroit, moi, français, je peux parler du zombie haïtien, du vaudou, etc. Ça ne pouvait pas être le sujet du film. Ça ne pouvait pas être la totalité du film. Donc, je me suis dit, il me faut un point de vue français. Et j'ai inventé... l'histoire de Clairvus est relativement vraie. Je dis relativement parce qu'il est difficile de savoir tout ce qui s'est passé. Mais en effet, c'est un zombie qui est revenu, entre guillemets, à la vie. Et je lui ai inventé, en revanche... une petite fille dont les parents seraient morts pendant le tremblement de terre et qui aurait intégré le pensionnat de la Légion d'honneur. Et donc voilà, le point de vue, il est un petit peu de la France, il est d'elle. Je lui ai donc inventé aussi des amis et un chagrin d'amour pour essayer aussi de contraster avec tout ça.
Vous êtes beaucoup intéressé à Haïti, à la culture haïtienne avec sa richesse, ses histoires, ses récits, son imaginaire, Bertrand Bonello.
En fait, oui, j'avais un ami très proche qui, il y a 15 ans, a tourné un film en Haïti et qui vivait en partie là-bas. Et il m'a transmis son amour, en effet, par des textes d'anthropologues ou d'historiens ou d'écrivains de ce pays, oui.
Et cet amour, il témoigne aussi de l'épaisseur et de la multiplicité de cette culture que vous montrez, que vous filmez. Pourquoi avoir choisi cette confrontation entre donc ce pensionnat de la Légion d'honneur qui incarne une forme de France avec son conservatoire des traditions et puis ce pays, Haïti en l'occurrence, que vous filmez dans Zombie Child?
Ben, j'aime bien les contrastes. Je trouve que c'est quelque chose que je recherche de plus en plus dans les films. Alors là, il y a évidemment, alors le pensionnat, c'est Napoléon qui le crée. Le rapport entre Haïti et Napoléon est compliqué. Le pensionnat, c'est des jeunes
Pourquoi
filles.
compliqué?
Bah, il a voulu rétablir l'esclavage. Le Haïti, là, c'est vraiment, il y a quelque chose d'assez nocturne avec un homme seul qui marche comme ça. En France, au contraire, ce sont des jeunes filles qui parlent énormément. Et j'aimais bien l'idée de prendre deux histoires assez simples finalement, c'est-à-dire un chagrin amoureux adolescent, quelque chose qu'on connaît, et cette histoire de zombie qui, même si elle est un peu différente de celle qu'on connaît, c'est quand même, voilà, on la comprend, et qu'en rapprochant ces deux choses assez simples, et ben tout d'un coup, il y a énormément de portes qui s'ouvrent, que ce soit des portes esthétiques ou politiques ou d'histoire.
Alors justement, le pont, il est historique, et vous l'avez nommé avec Napoléon, et il est raconté dans le film par un prof d'histoire qui est joué par Patrick Boucheron, même s'il ne donne pas cours en lycée, il a un discours qui est assez proche de celui qu'il pourrait tenir dans la vraie vie. Patrick Boucheron.
Oh, Bertrand, je pense, je l'ai pas choisi par hasard.
Voilà. Justement, je voulais vous demander pourquoi vous l'aviez choisi.
Non, mais c'est un film où j'avais envie d'être un petit peu libre et je me suis dit tiens, j'ai le droit, je peux m'autoriser à avoir une prise de parole assez forte sur pendant un cours d'histoire et en début de film. Donc c'est certain, Boucheron aujourd'hui, il a une parole qui est assez riche, puissante. Etc. Donc je lui ai juste donné le sujet du cours, c'est-à-dire les deux courants du libéralisme au 19e, et après je l'ai laissé, c'est la seule chose qui n'est pas totalement écrite dans le film, je l'ai laissé libre de faire son cours, et voilà, il a attaqué par Michelet, et il termine par qu'est-ce que c'est qu'une expérience, en fait il fait un cours qui est qui irrigue totalement sur le film et qui raconte presque le film à sa manière, c'est-à-dire comment on peut aujourd'hui raconter cette histoire, qu'est-ce que c'est que raconter une histoire, est-ce qu'il faut la faire de manière continue ou discontinue, et c'est exactement ce que le film fait.
Il raconte une histoire de France, Boucheron, dans ce film. Il la raconte d'ailleurs sans référence excessive à l'étranger, puisqu'il a été au cœur d'une polémique. On s'est demandé si son histoire de France était une histoire par trop biaisée. Votre point de vue là-dessus, Bertrand?
Moi, je trouve ça passionnant qui passe à chaque fois par les liens qu'il fait m'intéressent, voilà. Et c'est là où ça rejoint un peu mon film, hein. On a en effet presque un teen movie dans un pensionnat en 2019 et Haïti en 1962, et voilà, et on fabrique des liens, et en fabriquant des liens on fait apparaître autre chose. Et Boucheron, il fait un peu la même chose.
Un teen movie, d'ailleurs, on écoute du rap dans votre film, Bertrand Bonello. On écoute des lycéennes qui chantent du rap et notamment un rappeur, Damso, qui est réinterprété. On va écouter un extrait de votre film Zombie Child, Bertrand Bonello.
Quoi qu'il arrive, tu dis pas un mot de ce qui se passe ici, ok?
Ok, mais est-ce qu'on a le droit d'être là?
Ouais, au calme.
Bah ouais, enfin, pas d'être là à cette heure-ci, mais de faire une sororité, on a le droit. En plus, ils adorent le projet.
En même temps, c'était sûr qu'ils allaient, mais tu vas voir les profs et tu leur dis que tu veux faire une sororité de littérature contemporaine, ils te kiffent.
Et je dois faire quoi?
Pour faire partie de la sororité, tu dois nous raconter quelque chose d'hyper personnel, tu vois. Genre quelque chose de capital. C'est là-dessus qu'on va se décider.
Comme quoi?
Je sais pas, faut vraiment que ce soit hyper important pour toi. C'est pas grave, tu nous mets une musique que t'aimes bien, c'est bon. Tu vois.
T'avais dit quoi, toi?
Bien sûr, tu lui dis pas. Hein.
Non. Je sais pas, ça peut être ta vision de la vie ou de la mort, enfin, je sais pas.
Vas-y, passe. Surtout, faut que ça nous parle à nous quatre. Ça, c'est le truc le plus important.
Ouais. Faut qu'on soit toutes d'accord, c'est hyper important.
Et puis, t'as droit qu'à une seule chance, hein. C'est un one-shot.
Du Damso sur France Culture, vous écoutez France Culture, il est 7h52. Nous recevons Bertrand Bonello pour son prochain film Zombie Child qui sort le 12 juin. Il est question d'ethnologie, de voodoo et de rap, car on y voit des adolescentes qui aiment forcément le rap. Qui est Damso d'ailleurs?
Alors j'avoue que je ne savais pas au moment de l'écriture qui était Damso, mais j'ai une fille de 15 ans et quand je cherchais un morceau pour que les filles chantent, j'ai regardé sa playlist Deezer et le dernier morceau écouté c'était ça. J'ai écouté, j'ai été un peu surpris, mais en fait j'ai trouvé ça assez bien et assez bien pour le film. Oui. C'est un rappeur belge en fait qui est très controversé pour ses textes
Vous écouterez.
Et la volonté de filmer des adolescents, de confronter leurs petits drames, je ne le dis pas de manière péjorative, mais comme il y a en toile de fond Haïti avec cette fois-ci un grand drame historique, comme il y a Patrick Boucheron qui sert un peu de fil conducteur à votre film, forcément le télescopage, il y a cette volonté chez vous de filmer des adolescents dans leur...
Oui, mais c'est un truc qui est dit d'ailleurs, c'est le personnage de Louise, la jeune blanche, qui dit, y a-t-il une hiérarchie des malheurs? C'est une grande question, hein. Comment peut-on comparer un chagrin d'amour adolescent à, en effet, tout ce que Haïti a pu subir. Et c'est vrai que j'ai eu ce qui moi m'intéressait avec cet âge 15 ans là, c'est que au-delà, enfin le côté teen movie m'intéressait puisque le film traverse quelque part plusieurs genres, c'est un film assez hybride. Et puis ce qui m'intéressait, d'être à la hauteur de ces jeunes filles, pas être au-dessus, d'être dans leur langage, dans leur écoute, dans leur maladresse, et encore une fois, hein, ça fabrique des contrastes que je recherchais avec cette histoire en Haïti qui est à un autre niveau.
La société de consommation, avec le rapport de ces jeunes filles à cette société de consommation, et puis le zombie qui est, je crois, une métaphore là aussi chez vous, à ce point de vue et à cet égard, Bertrand Bonello.
Bah, le zombie, par exemple, chez George Romero, qui a été presque qui a incarné la plus grosse figure du zombie, c'est vrai que ça a toujours été lié à la société de consommation. Ça a été une influence, par exemple, sur mon dernier film, Nocturama, qui tournait beaucoup autour de ça. Il n'y avait pas de zombies, mais enfin... Disons que le Dawn of the Dead de Romero a été une influence. Après, voilà, les obsessions passent de film en film. Ouais.
Et cette obsession pour le film de Jean, elle ne s'arrête pas aux zombies, puisque j'ai cru reconnaître une scène de l'exorciste dans votre film. Vous aimez le cinéma d'horreur ?
En tout cas, c'est celui qui m'a fait aimer le cinéma quand j'étais adolescent. Je suis vraiment passé.
C'est vrai ?
Oui, je suis vraiment passé par là. Les vidéoclubs, les Romero, les Carpenter. On lui a d'ailleurs rendu hommage avant-hier.
Ce qui est une forme là aussi de reconnaissance, parce que à l'époque, ce cinéma n'était pas forcément goûté par la culture cinématographique classique.
Oui, c'était vraiment de la série B en fait, du divertissement. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que un, c'était des bons films. Deux, c'était des bons metteurs en scène. Et trois, tous ces films étaient sous-tendus par une pensée politique quand même. Carpenter, Romero, quand on les entend en entretien, ils ne parlent quasiment que de politique. Et donc voilà, c'est peut-être aussi pour
ça
qu'il y a...
pas forcément pour la politique qu'on les apprécie. Je veux dire, ce sont des métaphores, certes.
Ce sont des métaphores, mais on s'aperçoit après coup qu'en fait, ces films étaient sous-tendus par quelque chose qui était un peu mieux que le B-movie du samedi soir.
Mais vous, en tant que cinéaste, pourquoi sont-ce de bons cinéastes? Pourquoi L'Exorciste de Friedkin est un grand film selon vous?
Alors, Friedkin, je le mettrais comme grand film, surtout du point de vue du cinéma, beaucoup plus que du discours. Parce que je sais pas aujourd'hui qui s'autoriserait un film avec une telle puissance, une telle structure. Quand on repense à la structure du film, elle est complètement dingue.
La structure de L'Exorciste.
Oui. Voilà. Alors moi, j'essaie de m'autoriser des libertés comme ça de structure et de passer en effet par l'ethnologie pour arriver à une scène de possession qui dure 15 minutes et qui mélange à la fois une cérémonie en Haïti, une jeune fille à Paris, etc. Voilà, c'est ce genre de liberté que moi j'essaie de m'octroyer. D'ailleurs, enfin. Le film n'est que ça, hein. C'est un film aussi sur la transmission de la liberté. Il faut qu'elle soit aussi dans le cinéma.
Et un cinéaste blanc qui filme la culture haïtienne, est-ce que par exemple vous êtes posé la question de l'appropriation culturelle? Est-ce que c'est pertinent ou est-ce que l'universalité humaine finalement fait l'idée
pertinent,
de ce genre de
choses? Oui, c'est pertinent, évidemment ça l'est, et encore plus aujourd'hui puisque c'est un petit peu un des grands sujets, donc je me la suis posée. C'est-à-dire la question du point de vue surtout, de quel endroit on raconte et qu'est-ce qu'on montre, à quelle distance, est-ce qu'il faut être proche, loin, enfin trouver la bonne distance. Encore une fois, c'est pour ça que je suis passé par la France, par ces jeunes filles au pensionnat aujourd'hui en 2019 pour raconter quelque chose. Et on peut même se demander si toutes les scènes en Haïti sont vraiment réelles ou si c'est l'imaginaire de la petite fille haïtienne qui s'imagine ces scènes comme ça parce que sa mère ou sa grand-mère lui aurait raconté, parce que tout ça fait partie de l'histoire et de l'imaginaire haïtien.
On peut effectivement se le demander, et je me suis demandé en regardant votre film s'il n'y avait pas une part d'onirisme tout simplement dans cette présentation.
Ouais.
Mais Bertrand Bonello, sans divulgâcher la fin de votre film, finalement, votre message, il est quand même bien plus proche de l'universalité sur le fait que finalement, les êtres humains, au-delà donc de leur lieu de naissance peuvent avoir les mêmes référents et peuvent finalement être soignés par des méthodes qui ne sont pas les méthodes de là où ils sont nés.
Mais j'ai montré le film il y a quelques jours à Yannick Lahance, qui est une écrivaine haïtienne, et je lui ai parlé de cette question du point de vue. Elle m'a répondu « Mais vous savez, moi aujourd'hui j'apprends plus sur mon pays par des écrivains américains par exemple que par des écrivains haïtiens. » Et elle me dit « Vous m'invitez au Collège de France pour donner des cours, pourquoi nous on vous inviterait pas pour filmer notre pays ?» Voilà, c'est aussi ça hein, l'universalité.
Ce qui veut dire aussi qu'il y a quand même un message d'espoir là-dedans, puisque à une époque où on parle d'identité fracturée, vous vous réunissez les identités dans un lieu, les choses se passent plutôt bien telles que vous les filmez.
Elles se passent comme elles peuvent, mais non, comme je vous disais, quand cette idée de transmission de la liberté qui traverse tout le film, c'est presque ça qui m'intéresse plus que même que l'universalité, je pense.
Quelle différence vous faites entre la transmission de la liberté et l'universalité? Parce que on pourrait très bien dire il y a des théories sur le fait que il faut soigner les peuples et les cultures à partir de leurs racines et à partir de leurs traditions. C'est pas ce que vous épousez.
Non, en fait, c'est la différence que je fais, c'est que je trouve que l'universalité est quelque chose d'un petit peu théorique, alors que la transmission de la liberté est quelque chose qui peut se chercher, se travailler et auquel je suis très attaché.
Transmission de la liberté dans Zombie Child, votre film, on l'a beaucoup apprécié au matin. Il sort le 12 juin, Bertrand Bonello. Vous allez rester avec nous. On va continuer à parler de cinéma puisque nous sommes en direct de Cannes. On va recevoir deux autres réalisateurs. Nicolas Pariser, dont le film Alice et le maire va être présenté à la quinzaine des réalisateurs. C'est un film où il est question d'un maire de Lyon. C'est un film politique avec une belle peinture de la politique. Et puis un film d'animation signé Zabou Bretman, elle l'a co-réalisé avec Eléa Gobé-Mévelec. Ce film s'intitule Les Hirondelles de Kaboul, d'après un livre de Yasmina Kadra. Et je suis donc en direct du Festival de Cannes, dans le Palais des Festivals, avec mon camarade Antoine Guillot, l'homme qui connaît chaque centimètre carré de tapis rouge, de red carpet. On peut pas dire ça?
Si, malheureusement, il y a un moment où on se sent beaucoup trop familier à Cannes.
Voilà, je vous présente également les cinéastes qui m'entourent. Bertrand Bonello pour son film Zombie Child, présenté à la quinzaine des réalisateurs. À côté de lui, Zabou Bretman, bonjour. On va parler dans quelques instants du film d'animation que vous avez co-réalisé avec Eléa Gobé-Mévelec, un film d'animation intitulé Les Hirondelles de Kaboul, et il est sélectionné pour le prix Un Certain Regard. Et puis Nicolas Pariser, bonjour, vous êtes vous auteur d'un film intitulé Alice et le maire, il est présenté à la quinzaine des réalisateurs, et il est logique que je vous donne la parole après le billet politique, tout simplement parce que votre film est un film où il est question de politique. Il raconte l'histoire d'un maire de Lyon, un maire de Lyon qui est un peu au bout du rouleau. Il a une maladie un peu étrange, encore que c'est une maladie un peu répandue, il n'a plus d'idées. Et il embauche une jeune philosophe, elle ne se dit pas exactement philosophe, mais elle a quand même lu beaucoup de livres, pour lui donner des idées et pour que celle-ci réussisse en quelque sorte à lui redonner goût à la réflexion politique. C'est un film qui a beaucoup fait parler de lui parce que il y avait le maire de Lyon, et pourtant ça n'est pas vraiment une peinture de Gérard Collomb, Nicolas Pariser.
Non, moi je voulais tourner dans une grande ville. Je voulais que l'homme politique du film soit maire. Et après, j'aime beaucoup Lyon, notamment son architecture. C'est une ville que j'avais envie de filmer, donc je me suis logiquement dit que j'allais mettre en scène le maire de Lyon. Après, Gérard Collomb, en l'occurrence, quand j'ai écrit le scénario ou quand j'ai commencé à avoir l'idée, n'était même pas encore ministre de l'Intérieur, et j'avoue, je l'aurais éventuellement reconnu dans la rue, mais j'avais aucune idée de sa vie, de ses idées. J'aurais même pas été incapable de savoir si c'était l'aile gauche du PS ou l'aile droite. Donc non, j'ai écrit le scénario sans penser une seconde à Gérard Collomb.
Même si ce maire de Lyon est un maire socialiste dans votre film, Nicolas Pariser, mais effectivement le parallèle ne tient pas. En revanche, ce qui est significatif dans votre film, c'est que contrairement à la peinture qui est souvent faite de la politique dans les séries, je pense à House of Cards, où il y a une manière probablement très facile de considérer que les politiques sont des gens extrêmement cyniques et on va aller très très loin dans le cynisme, c'est pas du tout le chemin que vous avez suivi.
Non, bah, disons que pour revenir sur House of Cards, disons qu'il y a une tradition, je pense aux États-Unis, de séries un peu cyniques, voire un peu de droite, comme House of Cards, effectivement. Et puis il y a aussi une grande tradition de films politiques, disons pour le dire vite, rooseveltiens, que ce soit les films de Capra ou jusqu'à la série à la Maison Blanche. Et moi, disons, en tant que Français, j'avais plutôt envie de m'inscrire dans une logique rooseveltienne que dans une logique...
Une logique rooseveltienne.
Oui, disons, une logique de gauche, une logique où on croit encore un peu... on ne croit pas, disons...
Gauche qui croient en la politique.
Non, non, mais je veux dire, on ne croit pas que le cynisme est fondamentalement la fin et les moyens et de tout acte politique, de toute... voilà, que les hommes et les femmes dont le métier est de faire de la politique ne sont pas tous forcément des monstres ou voilà.
Oui, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que vous filmez la politique à hauteur d'homme. Après tout, ce maire, il a bien le droit d'avoir des doutes, il a bien le droit de se demander comment faire pour continuer ou faire raviver cette flamme qui brûlait en lui pour la politique il y a quelque temps. On écoute un extrait de votre film, Nicolas Parisère, Alice et le maire.
Bon, alors, il faut accélérer Lyon 2500. Merci beaucoup. Accélérer nettement. C'est pour ça que j'ai décidé de nommer Alice Heyman responsable du comité de préparation. Il fallait une tête pensante, brillante, fonceuse, pas dans le prêt-à-penser, nous l'avons. La première chose que je veux, c'est que Lyon 2500 s'adresse à tous les Lyonnais. Aisés ou modestes, Lyonnais depuis longtemps ou pas, diplômés ou non. À chaque action que nous allons mener, nous devons nous poser la question, qu'attendent de nous réellement les Lyonnais ? Et plus particulièrement ceux qui ont perdu espoir dans la gauche, et même ceux qui croient plus du tout en la politique. Non mais manger, vous savez, il n'y aura pas de deuxième service. Hein. Ça va les notes, vous êtes quand même capable de retenir deux, trois choses importantes pendant deux heures, non ? Je fais pas un cours sur Spinoza. Alice Heyman, est-ce qu'elle prend des notes ? Elle prend pas de notes, elle écoute, son cerveau est encore capable de retenir des choses. Bon, il faut rester modeste.
J'ai beaucoup aimé ce portrait de femme intellectuelle qui apprenait à ce maire la décence commune, cette notion chère à Orwell, où il est question pour les politiques d'apprendre justement à ne pas rompre avec un certain lien avec le peuple. Qu'est-ce que vous avez pensé du film, Antoine Guillot ?
Alors, moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu, précisément parce qu'il prend la politique au sérieux. Il y a un peu deux tendances. On dit toujours qu'en France, on a du mal à filmer la politique, à trouver des représentations. Alors, il y aurait la tendance un peu thriller, l'exercice de l'État, les tensions, du suspense, etc. Le côté plus satirique, le film de Bertrand Tavernier, Quai d'Orsay, par exemple. Vous prenez ces questions très, très au sérieux. D'abord parce que vos personnages croient à la politique, à la possibilité de changer les choses avec ça, que vous montrez très bien les tensions qui naissent de la rapidité, du besoin d'agir très vite et donc qui empêchent de penser. On n'a pas le temps, et même cette jeune femme très valeureuse qui veut fournir des idées à son maire Anaïs de Moustier, ben elle a une heure pour le faire, donc une heure pour digérer un livre énorme et pouvoir en sortir une pensée, c'est pour moi assez passionnant. Et surtout, on aurait pu craindre par le casting, par exemple Fabrice Luchini, Nora Hamzaoui, qu'on tomberait dans une sorte de représentation farcesque de tout ça. Or, Fabrice Luchini, le Ludion, vous l'avez totalement maîtrisé et vous en faites un personnage politique. Comme il y a eu une grande tradition d'hommes politiques en France qui ont tendance un peu à disparaître avec le ripollinage très propre des jeunes générations, et cette jeune femme, Anaïs de Moustier, je l'ai trouvée très romérienne. Et tout d'un coup, j'ai pensé à un grand film politique d'un homme qui a créé Fabrice Luchini, c'est Éric Rohmer, et j'ai pensé à L'Arbre, le maire et la médiathèque. Est-ce qu'il était quelque part dans votre impensée, Nicolas
Parisère ? On pense à ça, effectivement, Nicolas Parisère.
Non, Rohmer est jamais dans mon impensée, c'est un cinéaste qui est extrêmement fondamental, central dans ma vie, comme cinéphile et puis comme réalisateur. Après, disons, le film de Rohmer qui a été vraiment, pour moi, un choc et qui même a débloqué quelque chose en moi et qui a fait que j'ai commencé à écrire les scénarios, c'est plutôt Triple Agent, donc plutôt le Rohmer de la fin. Sur la manière de construire un récit, de filmer à la parole comme action, voilà. Après, évidemment, L'Arbre, le maire et la médiathèque, c'est un film que j'aime beaucoup, mais qui est plus improvisé, qui a des qualités immenses, hein, mais qui est moins impressionnant directement, voilà.
Et le rapport entre les politiques et les intellectuels, parce que ça, France Culture, c'est quelque chose que l'on pratique quotidiennement. Alors, là aussi, les rapports ne sont pas caricaturaux, parce que votre mère, il publie un bouquin, il l'a à peine lu, et il a quelques difficultés à comprendre ce qu'est la philosophie et à quoi servent les intellectuels, Nicolas Pariser.
Oui, bah ça c'est quelque chose que j'ai pu constater dans ma vie, c'est que les intellectuels, même dans le métier, par exemple, de travailler la philosophie politique ou les idées, ont énormément de mal avec, même à imaginer comment on fait pour prendre des décisions, pour comment on gère, je sais pas, une majorité, comment, voilà, donc la politique au quotidien est quelque chose qui leur est très étranger. Et à l'inverse, les hommes politiques ont une forme d'intelligence, je dirais, animale. En tout cas, à mon avis, très primaire, c'est-à-dire que pour être un grand homme politique, il faut avoir une intelligence presque de, je sais pas, de footballeur, plus que d'universitaire, et qui ont une indifférence, même pas une méfiance, une indifférence par rapport à la pensée.
Alors c'est ça, les gens qui agissent, selon vous, ne pensent pas, les gens qui pensent n'agissent pas, ou pas assez, je le dis de manière trop brutale.
Disons, dans le champ politique, hein, je dirais pas ça, dans d'autres champs, que ce soit le champ artistique, on peut penser et agir, et même, je sais pas, un ingénieur, c'est quelqu'un qui pense et qui agit. Je parle vraiment du champ politique, où il y a des penseurs politiques qui, effectivement, sont complètement dépassés, enfin, qui seraient incapables d'avoir même un mandat de cinquième adjoint dans une ville de 10 000 habitants, et au contraire, effectivement, des hommes politiques qui dont on est parfois souvent étonné de l'inculture totale.
Antoine Guillot.
Je parlais tout à l'heure du risque du didactisme dans le film politique, hein, à propos de Ken Loach. Comment vous faites pour créer des personnages qui vont au-delà de leur discours? Vous parliez du discours comme action, mais pour faire en sorte que ils ne soient pas là juste pour être les porte-parole d'un scénario que vous auriez écrit pour nous dire des choses.
Bah ça, c'est mon travail de réalisateur, c'est-à-dire dans n'importe quel film réussi, un personnage n'est pas ce qu'il dit. Il y a évidemment une différence entre ce qui est dit, ce qui est pensé et le personnage lui-même. Et moi, je pars effectivement de la politique pour arriver ailleurs. Alors que souvent, effectivement, dans les films politiques, on fait autre chose. On part de quelque chose, d'une situation quotidienne, etc., pour arriver, disons, à la dimension politique. Et moi, j'essaie de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir du politique dans le travail de mes personnages, dans leurs discours, pour arriver ailleurs. Alors, quel est cet ailleurs? Je sais pas exactement quoi, mais disons, voilà, je prends le politique comme point de départ et pas comme point d'arrivée.
Et alors, dans votre film, il est beaucoup question de la gauche, la vraie gauche. Qu'est-ce que c'est que la gauche? Justement, vous en pensez quoi de la gauche actuellement? Parce qu'il y a aussi une campagne, Nicolas Pariser, je ne vous l'apprends pas.
Oui, disons que je n'ai pas de surplomb. Enfin, dans le film, Anaïs de Moustier n'a pas de surplomb par rapport au monde politique dans lequel elle vit. Et moi, je n'ai pas de surplomb par rapport au désarroi que vivent les gens de gauche dans mon film. Donc, je suis exactement comme eux. C'est-à-dire, je suis en plein désarroi et je n'ai pas un message.
C'est peut-être parce que vous êtes à droite.
Non, mais je suis pas de droite, mais je pense que si j'étais à droite, je serais dans un désarroi, équivalent. Mais
alors c'est un désarroi du politique dans ce cas-là, pas en fait.
C'est sans doute c'est sans doute un désarroi du politique, disons dans l'articulation droite-gauche qui est celle d'aujourd'hui. Voilà.
Antoine Guillot.
C'est-à-dire qu'il y a un hors-champ un peu mystérieux dans votre film et sur lequel, et c'est ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, vous ne faites ni théorie paranoïaque ni construction d'un grand méchant. Il y a par exemple ce communicant, ce mystérieux Patrick Braque qui est formidablement joué par Thomas Chabrol, dont on ne sait trop qui il est. Le maire va sans cesse dire à sa jeune conseillère, il faudra que je prenne le temps de vous en parler, puis il lui en parle jamais, donc il reste dans le mystère. Et puis il y a des manœuvres d'appareil au sein du parti socialiste qui fait que le destin national de ce maire risque d'être mis en danger, et ça vous le laissez dans cette espèce de hors-champ, précisément puisqu'il s'agit de cinéma dont le mystère ne sera jamais éclairci.
Oui, mais je dirais pas mieux, mais voilà.
Dans ce studio, aux côtés de Nicolas Pariser, on vient de parler d'Alice et du maire Bertrand Bonello pour Zombie Child et également Zabou Breitman qui est sélectionné pour le prix Un Certain Regard avec le film que vous avez co-réalisé, Eléa Mauvais-Lec, la co-réalisé, pardon, Les Hirondelles de Kaboul. Et mon camarade Antoine Guillot l'a vu, ce film, peut-être quelques mots, Antoine.
Le titre ne sera sans doute pas complètement étranger à bon nombre nombre de nos auditeurs, puisque c'est l'adaptation du livre de Yasmina Kadra, avec cette petite différence qu'il se passe un peu plus tôt, je crois bien, que le livre, puisqu'il se passe à Kaboul, et on est en 1998. Comment le sait-on qu'on est en 1998? Parce qu'à la radio, on entend le nom de Zidane, donc c'est la Coupe du Monde de 1998 qui date le film. On est donc au tout début du règne des talibans sur la ville de Kaboul, et on va suivre deux couples, un jeune couple et un couple plus âgé. Alors le couple plus âgé, c'est Atik, ancien combattant Mujahideen de la guerre contre les soviétiques, et sa femme qui est malade, Moussarat. Et puis vous avez un jeune couple d'intellectuels et d'artistes, Zunaira et Mohsen, qui tente donc de survivre dans le Kaboul des talibans.
Pourquoi ce choix alors, Zabou Breitman? Pourquoi un film d'animation tout d'abord?
Alors les deux choses m'ont été proposées. Donc j'avais d'abord un scénario qui m'a été proposé. Il avait déjà été, il a été pensé en film, dont j'ai compris qu'on disait live quand c'est pas de l'animation. Donc il a été pensé en film live, puis ils se sont dit non, ça va être très très particulier, très bizarre. Ça aurait fait 3h30 de film, je pense. Et l'animation permettait un peu plus peut-être de place pour le spectateur, pour quand même montrer des choses extrêmement d'une grande violence, et qui permet de la place, comme un lecteur a de la place avec un roman. Et ensuite, l'animation, ça m'a toujours plu. J'ai hésité très longtemps. J'ai toujours aimé dessiner. J'aurais pas été capable, parce que je suis pas bonne en couleur, contrairement à Eléa. Quand on m'a proposé ça, je me suis dit, mais il y a une chose qui m'intéresse vraiment énormément. J'ai toujours aimé la BD et l'animation, et c'est de faire jouer les personnages bien. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui est souvent pratiqué ici, pour avoir fait des voix, on propose d'abord une sorte d'animatique, c'est-à-dire des mouvements un peu saccadés, mais déjà qui on pressent le rythme en fait du jeu du personnage. Et là, j'ai voulu faire jouer tous les acteurs avant.
Et oui, donc... parce que j'ai lu que c'était un mécanisme assez compliqué. Il y a des acteurs qu'on connaît. Il y avait votre père aussi qui...
Mon papa, ouais, mon cher papa qui a joué le rôle de Nazish et qui n'est plus là, mais et qui est là en fait en dessin. Et il y a vraiment quelque chose de très fort, parce que bon, c'est un comédien, donc j'ai pu voir des films avec lui, mais ce que je vois de lui, c'est parce que les personnages ressemblent aux comédiens, et ils ont leurs gestes, ils ont leurs mouvements, leur respiration, et tout à coup mon père est un peu plus que mon père. Il est là en dessin, et il est un peu plus existant qu'en vrai.
Antoine Guillot.
Précisément, c'est l'originalité de ce film, c'est que ces personnages animés ont des gestes dont on sent qu'ils sont incarnés au départ par des comédiens, mais aussi parce qu'ils proposent une vision, vous l'avez dit à l'instant, assez belle. Vous voyez ce que je veux dire?
Très bien.
Belle sur de l'horreur. C'est-à-dire qu'on a des images qui sont aquarellées, on a ce trait très épais d'un pinceau assez épuré et suggestif. Ça ressemble un peu à du Bastien Vivès, pour donner une idée aux amateurs de bande dessinée, qui vont représenter des scènes extrêmement dures, et notamment dès le début du film, une scène de lapidation dont on aurait pu penser que vous l'auriez laissé hors champ, comme d'autres horreurs qui arrivent à la fin, mais que vous montrez très explicitement, et parce que c'est un moment de bascule très important dans le film, le moment où on quitte l'humanité.
Zabou Breitman.
Oui, on s'est servi beaucoup avec Eléa. Elle a été cherchée, puisque je dis ça ressemble aux acteurs, on est loin de la motion capture. Hein. C'est dans un dessin extrême. La motion capture?
La capture de mouvement.
La capture de mouvement, excusez-moi. Oh là là. Bon, non, pardon.
Mais je connaissais pas.
Bon, sinon, on va recevoir des mails.
Ouais, pardon. Et alors, en tout cas, on est dans un dessin très, très traditionnel, image par image. Bon, alors dit, mais c'est image par image, hein. C'est quand même, donc, extrêmement délicat. Donc, je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Vous m'avez troublé.
Non, sur la question de la représentation et de la beauté, et notamment de cette scène de lapidation extrêmement dure, mais représentée tout à fait explicite.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on peut montrer quelque chose, parce qu'encore une fois, on est moins étouffé par une image imposée de réalité. Il y a la distance, même s'il y a de l'hyperréalisme dans le jeu et les personnages, il y a de la distance de l'aquarelle d'Eléa qui encore une fois laisse de la place. Et la place aussi pour le son, faut pas l'oublier quand même. Le son est quand même un vecteur d'émotions inouïes. Et vous faites des petits gestes, excusez-moi.
C'est parce que bientôt je vais lancer ce qu'on appelle
ça me fait peur un
bob.
Peu.
Je vais lancer un son,
peur,
un extrait de votre film. Je suis pas dangereux. Je suis pas dangereux. J'indique juste à la régie que bientôt il y aura un extrait de votre film. J'arrive Continuez, Sabou Bressman.
Je sais plus quoi vous dire. Je suis tout
Dites-nous la vérité. Nous
la
avons
vérité
besoin de la vérité.
La vérité
les auditeurs ont droit
Donc
à la vérité.
Comme il n'y a rien de plus aléatoire et que la vérité est celle de chacun, la réalité de la réalité, quoi. C'est quoi Je pense qu'effectivement
vous avez
la distance.
Vous étiez sur France Culture.
Hein. La distance. Non, mais c'est parce que c'est un bouquin que j'adore de Václavy qui s'appelle La réalité de la réalité que je trouve un truc absolument merveilleux. Voilà, c'est un livre de chevet que j'adore. Et donc, je pense qu'avec la distance de l'aquarelle, on voit mieux le tableau, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ça permet un recul et ça permet d'embrasser de manière plus globale le tout, quoi.
Alors regardez, c'est facile en radio de regarder un geste. Je vais demander à la régie de nous proposer un extrait de votre film, donc Les Hirondelles de Kaboul. Il est sélectionné pour le prix Un Certain Regard. Il a été co-réalisé avec Eléa Gobé-Mévélec et il sort le 4 septembre.
T'es folle, t'as mis tes chaussures blanches.
Oh, ça va.
Mais tu sais bien que c'est interdit.
Mais t'inquiète, on voit à peine mes pieds. Oh là là, j'ai tellement soif, j'étouffe là-dessous.
Attends.
Hey, petite. Hey.
Tiens.
Hey, Tata, tu peux aller avec Samir aujourd'hui?
Non, mais chérie, c'est pas Tata. C'est juste son tchadri, elle me l'a prêté. Moi, je suis Zunaïra, sa voisine.
Ah, d'accord.
Bon, alors, j'ai soif.
Tiens, attends, je vais t'aider.
Je sais pas ma bouche, c'est mon nez.
Concentre-toi aussi.
C'est n'importe quoi. Mets pas. Attends. Tu m'en fais pas.
Attends, non, s'il te plaît.
Laisse-moi faire.
Laisse-toi faire.
Non, laisse-moi faire.
Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop.
Chut.
Tu vas aller à la mosquée, écoutez le prêche, dis-moi là-bas, chien. Ça te remettra les idées en place.
Je dois amener mon épouse chez Sébastien.
Toi, tu l'attends contre le mur, là. Et tu ôtes ça. C'est interdit, les chaussures blanches.
Un extrait des Hirondelles de Kaboul, le film de Sabou Bressman, film d'animation Antoine Guillot.
Alors, ce qu'on a entendu ici, c'est ce jeune couple dont je parlais tout à l'heure, qui sort à un moment dans la rue, et on est sous les talibans, donc on met un tchadri. Le tchadri, c'est ce qu'on appelle la burqa, ici en France, sauf que elle met des chaussures blanches, déjà, ce qui n'est tout à fait pas autorisé, et puis elle a soif, et on essaye de lui... Et son mari essaye de lui passer une bouteille sous le tchadri, et évidemment, ils se font... tout de suite arrêté. Et c'est un des enjeux du film, c'est qu'est-ce qui se passe sous le tchadri. Et vous le montrez de manière très très diverse.
Zabou Bretman.
Oui, alors c'est beaucoup servi de documentaire et la façon dont les comédiens ont travaillé, ils étaient habillés aussi en costume. Donc Zita Enrou qui joue Zunaïra, Swan Arlo joue Mohsen. Zita avait un tchadri. Et donc quand il lui a donné à boire et que... Ils avaient aussi, je les ai laissés un petit peu improviser et les animateurs ont animé les impros. Ils ont animé l'atout, ils ont animé les hésitations, les gestes. Donc ça, c'est un truc assez particulier. Et quand il lui a donné à boire, elle lui a dit, mais attends, c'est pas ma bouche, c'est mon nez. Parce que, il y a pas le vêtement, voilà. Ensuite, on a filmé de derrière la grille du tchadri, et c'est venu d'un petit film de trois jeunes femmes qui ont fait un clip qui s'appelle Burqa Blue, et trois jeunes femmes qui ont fait de la musique électro en burqa, quoi, et elles ont filmé Kaboul de derrière leur grille, et on a fait plusieurs plans de derrière la grille. Pour avoir un peu la sensation de ce que ça veut dire, quoi.
On va l'écouter.
You give me all your love, you give me all your kisses, and then you touch my burqa and do not know who is it.
C'est trois Afghanes sous les talibans, c'est en 2000, qui chantent Burqa Blue en musique électro. Elles sont donc en burqa, elles jouent de la guitare électrique, de la batterie. On peut le trouver sur YouTube si on veut le regarder. C'est absolument inouï et c'est une sorte de résistance absolue et merveilleuse. Et parce que je veux dire, quand elles se filment comme ça, elles font leur clip dans Kaboul, je veux dire, elles risquent juste la mort, quoi. Et c'est une résistance... Une résistance de jeunesse et de... C'est une force inouïe, comme naturelle de jeunesse, quoi, que je trouve absolument merveilleuse, quoi. Et qu'on a... dont on s'est beaucoup servi de ces images-là.
Kaboul filmé la jeunesse. Vous, Bertrand Bonello, vous avez filmé Haïti et la jeunesse aussi, mais c'est une manière de décentrer son regard. Il y a des points communs, donc, avec l'exercice que vous avez fait. C'est compliqué de filmer une culture qui n'est pas la vôtre, Bertrand Bonello ?
Bah, il faut surtout pas se tromper sur à quel endroit on se met pour la filmer, et pas se tromper sur la distance, et pas être ni dans le folklore ni dans le tourisme, quoi. Voilà, c'est à peu près les questions de base. Après tout est difficile à filmer.
Et le cinéma d'animation, est-ce que c'est un genre qui vous inspire? Est-ce que vous avez vu beaucoup de films d'animation?
Alors pour moi, non. Moi, je pense que j'aurais pas la patience, et voilà. Après ça fait partie du cinéma, hein. Donc c'est-à-dire c'est un film comme un autre. Il y a de la mise en scène, il y a des bons scénarios, etc. ou pas. Après il y a aussi, se rajoute l'invention du dessin et une difficulté certainement à mettre de l'incarnation dans le dessin. Et puis après, moi j'aime bien la phrase de Disney qui disait « Quand je n'aime pas un acteur, je le déchire
». En tout cas, le point commun de vos trois films, mais c'est assez caractéristique de cette 72e édition du Festival de Cannes, c'est la politique, puisque chacun à votre manière, vous parlez de politique. Vous en parlez, Bertrand Bonello, de politique?
Oui, j'en parle pas directement dans le film. Après, j'espère que le film fait parler de politique. C'est pas moi qui en parle. J'espère que c'est le film qui en fait parler. Mais tout à l'heure, j'ai entendu parler de Ken Loach, etc. J'ai un peu la sensation que très
Antoine
souvent,
Guillot parlait de Ken Loach.
Oui, qu'on mélange beaucoup en cinéma le film politique et le film militant. Ken Loach est un cinéaste militant plus que politique pour moi.
Antoine Guillot.
Oui, très, très certainement. Et d'ailleurs, les films les plus politiques sont ceux qui ont un regard, je crois, avant d'avoir un discours. Et c'est les questions politiques qu'ils nous posent, qui nous intéressent, plutôt que le discours qu'on nous assène, évidemment.
Et vous, Nicolas Parizère, comment voyez-vous les choses? Alors vous, votre film, Alice et le maire, est un film sur la politique.
Oui, enfin, moi, on me pose souvent, est-ce que vous faites des films politiques, etc. Je serais quand même un peu trop dandy de dire que mes films sont pas du tout politiques. Mais effectivement, ils sont pas du tout militants. Et, enfin, pas du tout. Disons, ce sont pas des films militants. Et c'est vraiment ma matière première. Enfin, pour prendre des exemples très nobles et très anciens, je sais pas, Balzac ne parle parle énormément de politique dans ses romans. Pour autant, le fait que c'était quelqu'un de plutôt réactionnaire, royaliste, etc. Disons la puissance de l'œuvre est telle que ça va bien au-delà et que ça a des résonances encore aujourd'hui. Voilà.
Bon, alors chez vous, Zabou Redman, il y a évidemment un regard qui est politique au sens très large, j'imagine.
Oui, mais vous savez quoi, je crois. Si un film n'a pas du tout de résonance politique à aucun endroit. C'est un petit peu bizarre, non? Enfin, je veux dire, un film doit s'inscrire quand même.
Je vais laisser Antoine Guillot.
Mais je veux dire, c'est presque c'est l'essence de la création aussi, quoi.
Bah, généralement, quand un film veut s'abstraire absolument de tout propos politique, il a, je parlais d'un pensée tout à l'heure, il a, on dira quelque chose de conservateur, on dira quand ce n'est pas réactionnaire, c'est-à-dire surtout n'en parlons pas, donc laissons les choses comme elles sont. Montrer un corps dans une cité ou dans un environnement quelconque, c'est déjà de toute façon une question politique, et en tout cas ça dénote d'un regard politique, qu'on le veuille ou non.
Il y a un sujet politique qui s'est invité au Festival de Cannes, cette année, c'est le choix d'Alain Delon, avec la volonté de le célébrer pour les uns, avec d'autres qui pensent que, pour les propos qu'il a tenus sur les femmes, sur les homosexuels, eh bien, cet acteur ne méritait pas d'être célébré. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Bonello ?
Oula, alors moi je vais en rester juste au cinéma. Voilà, c'est un acteur qui, par sa rencontre avec certains metteurs en scène, a tout à fait sa place pour un prix et un hommage. Il a fait quand même des très très grands films avec des très très grands metteurs en scène à une certaine époque. Le reste, j'ai pas très envie de commenter.
Moi je pense exactement la même chose, quoi. Je veux dire, il fait partie d'un grand des grands cinémas, et français et étrangers.
Moi, je vais pardon, non, excusez-moi, pardon.
Allez, Nicolas.
Je pensais
Zabou Bret.
Moi, Delon, pour moi, c'est une des 4 ou 5 choses les plus importantes de l'histoire du cinéma.
Ah oui, à ce point-là? Pourquoi?
Oui. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui apparaît dans les années 60 presque comme un mythe du muet à la Valentino, qui ensuite a un jeu digne de Gary Cooper ou de John Wayne, et qui en même temps commence sa carrière dans le cinéma moderne, et qui, au bout de 15-20 ans de carrière, assiste à quelque chose du cinéma, de l'histoire du cinéma qui s'achève. Donc il incarne ça magnifiquement. Après, l'homme de droite qu'il est, ce qu'il a dit, si on commence à censurer les hommages aux gens qui ne pensent pas comme on voudrait qu'ils pensent, et il y en a énormément, on n'a pas fini de le travail.
Antoine Guillot.
C'est évidemment le personnage de l'acteur qui est récompensé. Enfin, c'est pas celui qui fait des déclarations, voilà, qui lui appartiennent et avec lesquelles on est tout à fait en droit de ne pas être d'accord. Moi, je suis plutôt surpris d'ailleurs que cette campagne parte des États-Unis, où il me semble que Alain Delon reste quand même quelqu'un d'absolument inconnu. N'en déplaise à Alain Delon, il est certainement plus connu au Japon, peut-être grâce à ses publicités, qu'aux États-Unis. Donc, il y a quand même un côté, faisons un peu de la pub sur soi-même grâce au Festival de Cannes, je trouve.
La thématique du féminisme, elle est d'ailleurs dans votre film au travers d'une sororité, Bertrand Bonello. Les lycéennes que vous filmez, elles forment une sororité, elles vont intégrer l'un des personnages de votre film. C'est important, le féminisme, dans votre film.
Le féminisme, en tout cas le féminin, voilà. Mais après, ça l'était aussi il y a 8 ans, quand je faisais la Polonide. Il y a des liens entre les deux films. Hein. Ce sont des espèces de gynécées, comme ça, de prison un petit peu très féminine. Mais oui, je pense que je préfère utiliser le féminin que le féministe.
Zabou Breitman, une
réaction. Oui, féminin, oui. Mais voilà, c'est pareil. Ce sont des films féminins. C'est quand même le roman part d'un monsieur qui se fait appeler Yasmina Kadra, qui a pris comme nom de plume les deux prénoms de sa femme, ce qui est assez chouette, quoi.
Antoine Guillot.
La question du féminin, de toute façon, évidemment, est au cœur de votre film et de l'image du féminin aussi. Il y a un moment très beau dans ce film, une sorte d'épiphanie, alors pardon d'utiliser un terme chrétien pour un film qui se passe en terre musulmane, mais où ce personnage d'Attique, donc de gardien de prison de femmes, va être confronté à l'image, et l'image au sens propre, d'une femme nue peinte sur un mur, et tout va changer pour lui.
Zabou Breitman.
Alors ça, c'était une petite liberté que j'ai prise par rapport au roman. Le personnage de Zunaïra n'est pas du tout dessinatrice dans le roman, mais pas du tout. Mais comme Eléa, je sais pas, je voyais peindre Eléa et je me suis dit, tiens, on va faire que le dessin peigne. Et donc le dessin se peint elle-même. Et je trouvais en plus que le dessin, comme le dessin, la représentation de l'être humain par le dessin est totalement interdite sous les talibans, je trouvais que c'était un peu... c'était un bon moyen de raconter l'histoire des hommes, quoi.
Et votre manière de raconter la politique, Nicolas Pariseur, les femmes y jouent un rôle de premier plan. Comment avez-vous décidé justement d'équilibrer cette relation entre le maire de Lyon sa conseillère, celle qui va devenir très importante dans son univers?
Ça me plaisait dans mon film que ce soit une femme de 30 ans qui explique la vie à un homme de 60. C'était quelque chose qui me plaisait, qui était contraire à ce qu'on voit
souvent. Elle le lui explique assez durement d'ailleurs. Elle lui dit finalement que son temps est passé, dans la mesure où s'il ne veut pas comprendre l'écologie, des choses comme ça, ça va être compliqué.
Oui, elle est vigoureuse, elle a du caractère, elle lui tient tête, oui, absolument.
Antoine Guillot.
Enfin, sa conseillère, ses conseillères, parce qu'il y a, vous parliez de Ginessé tout à l'heure, Bertrand Bonello, il y a tout un aéropage féminin autour de lui, et notamment Nora Hamzaoui, qui est un peu la conseillère presse, et moi, un personnage qui m'a beaucoup intéressé, Léonie Simaga, qui joue sa première adjointe, si j'ai bien compris, directrice de cabinet, Isabelle Leinsdorf, et là, qui est vraiment dans l'utilisation de l'homme politique comme marche-pied pour accéder soi-même à un pouvoir un peu plus élevé que celui d'une mairie de province.
Oui, c'est pour montrer qu'en fait les carrières politiques sont des carrières individuelles, mais qu'il y a autour de lui toute une équipe qui dépend de la carrière de l'homme politique et qui a tendance à vouloir le pousser et à gommer les doutes qu'il peut avoir. Et à l'inverse, un homme politique qui renonce ou qui renoncerait va mettre une quinzaine de personnes au chômage. Voilà, c'était cette idée-là. Ouais.
Nous avons 3 réalisateurs dans ce studio en compagnie d'Antoine Guillot à 8h55. Je voudrais quand même vous entendre évoquer les inquiétudes du cinéma. Bertrand Bonello, vous avez signé une tribune pour dire que voilà, vous n'étiez pas serein. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement inquiet?
Un peu plus que signé, parce qu'on l'a même écrite. C'est la tribune de la SRF, en effet. Pour aller vite, parce que ce sont des dossiers un peu compliqués, mais pour aller vite, ce qui nous inquiète, c'est une espèce de dérive, de virage comme ça, des pouvoirs publics, assez pernicieux, et qui tend
à... Virage vers quoi ?
virage vers qui pourrait passer, pour résumer, on va dire de l'exception culturelle à une espèce d'exception industrielle. Voilà.
Et vous la voyez comment? Parce que par exemple, ce film Zombie Child, j'ai vu que c'était un film à petit budget, alors que vous aviez tourné avec de grands budgets, mais budget suffisant quand même pour vous.
Oui, non, mais ça c'est un choix. Ça c'est un choix de se dire voilà, j'ai fait un film en 4 semaines pour telle somme d'argent, etc. Dans cette logique-là. Après, si aujourd'hui je veux refaire par exemple Nocturama que j'ai fait il y a 3 ans, je pense que je ne peux pas parce que l'économie change, parce que les pouvoirs publics se désintéressent du cinéma d'auteur et que voilà, on était un petit peu énervé.
Bretman.
Non, j'ai bien aimé la façon de tourner, c'est-à-dire de dire petit budget 4 semaines, c'est très important dans la façon de créer quelque chose. Ça changera à l'arrivée parce que le moyen de le faire ou les moyens fabriquent aussi une façon de penser, une façon de tourner et c'est très intéressant. Mais ça ne veut pas dire que tous les films doivent être faits en 4 semaines avec un petit budget.
Nicolas Pariser, votre regard sur l'économie du cinéma, est-ce que ça a été compliqué de monter votre film? Est-ce que vous observez les évolutions, les plateformes, parce que c'est un sujet important à Cannes, avec inquiétude?
Alors moi j'ai eu la chance, grâce à Fabrice Lucchini, de ne pas avoir de difficultés financières à monter le film. Parce que dans la mesure où c'est une star, il a accepté de faire le film. Le film s'est monté très facilement. Non, ce qui se dégage notamment avec le financement des films et des séries par des grandes plateformes, c'est que moi je suis arrivé dans le cinéma et encore aujourd'hui, le pouvoir n'était pas à ceux qui donnaient l'argent. C'est-à-dire le pouvoir était vraiment aux réalisateurs et aux producteurs qui n'avait pas l'argent, mais qui le cherchait. Et le problème de Netflix et de tous ces acteurs là, c'est que le pouvoir va arriver aux gens qui commandent le film. Et à mon avis, le problème fondamental, c'est que le patron n'est plus quelqu'un qui connaît le cinéma, mais que le patron est juste celui qui a l'argent.
Vous opinez du chef?
Oui, non, mais c'est certain que dans la logique de Netflix, le producteur tente à disparaître. C'est un lien entre une plateforme et un auteur, etc. Et que c'est assez dangereux. La vraie question, en fait, c'est ces nouveaux entrants, est-ce qu'on pourra travailler avec eux ou pas?
Antoine Guillot, vous allez encore rester quelques jours à Cannes. C'est un peu votre maison ici. C'est un bon cru?
Ça commence bien. La sélection, en tout cas la compétition, est très excitante. Et pour l'instant, elle remplit ses promesses. On a surtout vu des films, pour le coup, très politiques. On va voir si ça continue sur ce mode et si la passion que nous a promise Thierry Frémaux arrivera. Je voulais juste, par rapport à ce que vous disiez, parler des signaux assez inquiétants quand même, quand on voit un Emmanuel Macron qui rencontrait il y a quelques jours les acteurs et producteurs l'audiovisuel et du cinéma et qui disait... Grosso modo, écoutez, c'est assez étrange quand même votre notion de producteur indépendant, parce que quand je vois votre dépendance à l'argent public, je me pose des questions. Et les réponses qui risquent de sortir, on s'en inquiète un peu.
Merci Antoine Guillot.